Bonjour à toutes et à tous les festivaliers, bienvenue à tous pour la quatrième et dernière émission du festival Latitude Contemporaine. Je suis ravie de vous retrouver sur la fréquence 106.6 de Radio Campus en compagnie de la fine équipe.
Vous venez d'écouter Emeraude qui co-anime l'émission avec moi, Elisa. Avec nous, on a Noah, toujours notre philosophe et écrivaine.
Bonjour.
Et Amy, qu'on salue à la régie.
Bonjour tout le monde.
Et tout de suite, l'introspection de Noah sur le sujet la danse et la fête dans l'art contemporain.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette dernière chronique d'introspection. Aujourd'hui, nous voulions finir dans la joie et la bonne humeur en parlant de la fête et en particulier de la fête et de la danse. Mais pourquoi faisons-nous la fête? Est-ce uniquement pour rester dans le déni, pour oublier que le monde va souvent mal? Est-ce qu'on fait la fête, comme le dit Stromae, pour oublier tous nos problèmes? Ou est-ce que nous faisons la fête pour nous sentir mieux, ensemble, pour nous sentir plus forts? Les fêtes sont des moments de partage où l'on célèbre ensemble, collectivement. C'est un moment hors du temps, un instant extraordinaire dans nos quotidiens. La fête a bien sûr toujours existé, mais sous différentes formes et pour des occasions variées. Pendant l'Égypte antique, on fêtait notamment le jubilé lors de la 30e année de règne d'un pharaon. Lors de la Grèce antique, les Dionysies étaient des festivités religieuses, en l'honneur du dieu Dionysos. Elles étaient annuelles, un concours était réalisé dans lequel des dramaturges proposaient des pièces de théâtre qui allaient ensuite être jouées. Ensuite, pendant la Rome antique, il y avait une fête presque un jour sur deux. Il y avait des fêtes religieuses et des jours de jeux publics. Au Moyen-Âge, les gens faisaient la fête souvent, presque un jour sur trois. Il y avait des banquets et des tournois qui étaient des affrontements. Il y avait des spectacles dans les châteaux ainsi que des fêtes religieuses. C'est notamment lors de la Renaissance que la danse est devenue un outil politique, particulièrement avec Catherine de Médicis. Le ballet des ambassadeurs polonais mettait en avant la puissance du royaume. Au XVIIe siècle, la danse continue d'être parfois politique, notamment avec la belle danse que l'on connaît sous le nom de danse baroque. Les nobles apprenaient à danser en vue des bals. L'Académie royale de danse a été créée par Louis XIV pour devenir aujourd'hui le célèbre ballet de l'Opéra national de Paris. Mais à ces époques, il y avait d'autres danses dans lesquelles les peuples dansaient et célébraient ensemble. En fait, dès le XIIe siècle, une séparation a été opérée entre des danses dites nobles, celles de l'élite, et des danses populaires, qui sont des danses collectives. La danse noble est plus mise en avant, mais la population aussi dansait. D'ailleurs, dans le spectacle « Everybody knows what tomorrow brings and we all know what happened yesterday », l'artiste Mohamed Toukabri dénonce les hiérarchies faites entre les différentes danses. Après les traumatismes de la Première Guerre mondiale, la danse était devenue une véritable délivrance aux souffrances vécues. Dans le quartier de Montmartre, dans les années 1920, l'effervescence des soirées battait son plein. Des lieux phares comme El Garonne, l'endroit où il fallait être pour danser le tango, ou le Melodies, véritable référence pour les dancing cubains, ou encore la rue de Clichy, fameux repère du jazz, pétillait de vie. Avec l'art contemporain, les artistes ont de plus en plus tendu la main aux spectateurs en les invitant à les rejoindre dans un élan de danse où les corps se libèrent. L'artiste Boris Charmatz a proposé dans son œuvre « Fou de danse » un concept qui entraîne le public à danser pendant 10 heures ensemble pour voir dans cette effusion de joie soudaine une solidarité naître. L'artiste Larry Beau, dans son spectacle La Bola, invite aussi le public à la rejoindre dans des mouvements dansés en circulant librement dans l'espace pour créer un véritable lieu d'échange. Le pop art a aussi dépeint la danse et la fête de façon joyeuse, comme l'artiste Alex Katz dans son œuvre Paul Tyler Dance Company en 1964, ou Kate Haring avec son œuvre Untitled Dance en 1987. Dans les deux œuvres, les danseurs et danseuses apparaissent joviales. La danse est une ode à la liberté de mouvement et à la liberté d'expression. En fait, si on fait la fête, c'est peut-être parce que ça nous fait du bien, parce que les fêtes rythment nos vies du début à la fin. Parce qu'on aime passer les moments les plus importants de nos vies ensemble, faire la fête peut donner le sentiment d'être soudainement très unis. Pendant le festival Latitude, nous avons bougé, nous avons vibré sur les musiques de Happy Hype qui nous invitaient à danser, nous avons été captivés par l'énergie et la beauté du concert chorégraphié Coup Fatal, nous avons dansé jusqu'au bout de la nuit avec les artistes du spectacle Indigo et bien plus encore. Pour finir, je voulais terminer cette chronique en vous remerciant, chers auditeurs et auditrices. J'espère de tout cœur que ces chroniques vous auront plu. Nous avons assisté à beaucoup de spectacles et certaines images resteront gravées dans nos têtes pour très longtemps. Nous avons vécu de très beaux moments et nous avons vécu plein de belles découvertes. Et je voulais aussi remercier mes amis, la Dream Team, pour ces très beaux moments que nous avons vécu ensemble lors du festival. Mais l'émission n'est pas encore terminée. Restez avec nous, on vous a concocté un programme aux petits oignons.
Merci beaucoup Noah et merci beaucoup pour ces 4 semaines d'écriture philosophique et historique de qualité. Et nous, on va continuer à faire la fête, n'est-ce pas Elisa ?
En effet, tout de suite, on écoute Feeling Good de Nina Simone. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean? Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world and a bold world for me. Shine, you know how I feel. Scent of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new C'était Feeling Good de Nina Simone. Passons à la première représentation de la semaine, Vaike Kuna, interprétée par Tidiano Cruz. Vaike Kuna qui signifie « mes frères » en langue quechua de la communauté de Tidiano qui vit en Argentine. Ce spectacle est sa manière de faire le deuil de sa sœur décédée en raison de complications médicales et du système de santé défaillant. Je n'en dis pas plus et vous laisse avec l'interview réalisée par Amy et Elisa.
Beaucoup pour la représentation d'hier. Pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer l'origine du projet?
Hola, bueno, muchísimas gracias por este espacio y por haberse interesado en mi trabajo.
Bonjour, merci beaucoup pour cet espace et de vous avoir intéressé par mon projet.
Lo que estuvimos presentando acá en la ciudad de Lille tiene que ver con la tercera parte de una trilogía de obras escénicas autobiográficas.
C'est le troisième volet d'une trilogie autobiographique scénique.
Y es una obra que reivindica lo que es el rol de las culturas indígenas dentro de estas ciudades contemporáneas.
C'est une trilogie qui revendique ce que c'est que la culture indigène à l'intérieur de ces villes contemporaines.
Sur scène, vous êtes tout seul et le décor il est très simple. Pourquoi avoir choisi ce format pour raconter votre histoire?
Bueno, si bien estoy solo en la escena, detrás hay mucha gente trabajando.
Bon, bien sûr, je suis seul sur scène, mais derrière, il y a beaucoup de gens qui travaillent.
no solamente mi equipo que me acompaña, que me ha acompañado en las creaciones de estas tres obras, sino también toda una comunidad, que es mi comunidad, que ayuda a sostener este proyecto.
Pas seulement mon équipe qui m'a accompagné dans la création de ces trois œuvres, mais aussi toute une communauté, ma communauté qui me soutient dans ce projet.
Cada vez que salgo a escena, es mi comunidad la que se hace presente en ese espacio.
Chaque fois que je suis sur scène, c'est ma communauté qui se fait présente dans cet espace.
Donc vous avez dit que votre communauté était très présente avec vous. Comment ça se matérialise?
Totalmente. Y tiene que ver también con todas las materialidades que se hace presente en la escena.
Totalement, ça a à voir aussi avec toutes les matérialités qui se font présentes sur la scène.
Como el rebozo o manta que uso como vestuario. Que es propio de mi comunidad.
Comme par exemple le châle que je mets sur scène, qui appartient à ma communauté.
O los bordados que evocan un poco un sistema de escritura que tenemos en mi comunidad.
Ou la broderie qui évoque un peu un système d'écriture qu'on a dans ma communauté.
O los panes.
Ou les pains.
No, que de alguna manera me permite como esa presencia. Comunitaria en la obra.
D'une façon ou d'une autre, me permet cette présence communautaire dans l'œuvre.
J'ai cru voir que c'était un rituel andin de la cordillère des Andes, le partage de pain. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Est-ce que ça représente?
Sí, justamente es un ritual que para homenajear a las personas que se murieron.
Oui, c'est un rituel pour honorer les défunts.
Y en sí es una celebración.
Et c'est aussi une célébration.
Porque nosotros tenemos, las culturas indígenas, tenemos otra percepción de la vida y la muerte.
Parce que nous, dans la culture indigène, on a une autre perception de la vie et la mort.
Cuando una persona deja este plano terrenal,
quand une personne quitte ce plan terrenal,
automáticamente empieza a cumplir otro rol en el plano ancestral.
Automatiquement, il commence à accomplir un autre rôle dans le plan spirituel.
Y a la vez todo el tiempo esos dos planos dialogan.
Et en même temps, ces deux plans dialoguent.
Entonces, la muerte para nosotros no es el fin.
Donc,
¿no?
Pour nous, la mort, c'est pas la fin.
Que es un poco una mirada de Occidente.
¿No? Qui est un peu un regard d'Occident.
Entonces, lo que venimos, o lo que intento con el espectáculo es proponer una nueva forma o compartir la forma que nosotros tenemos de afrontar la muerte.
Donc, nous, ce que je veux représenter dans le spectacle, c'est cette façon, comment on voit la mort.
Sur scène, j'ai vu que vous aimiez beaucoup mettre énormément de paillettes et ces paillettes, elles représentent quoi dans votre spectacle?
Bueno, en la escena hay muy poco color, ¿no? El blanco es lo que predomina.
Bon, sur la scène, vous pouvez voir, il y a pas beaucoup de couleurs, c'est le blanc qui prédomine.
Y de alguna manera el color como que va entrando muy de a poquito y en pocas cantidades.
Et en quelque façon, c'est comme si les couleurs rentraient petit à petit et dans des très petites quantités, peu à peu.
Y específicamente la parte donde están los confetis o sí, los papelitos de colores.
Et là où vous voyez les confettis, les paillettes.
Y tiene que ver con una evocación de fiesta.
Ça a voir avec une évocation de fête.
Con fiesta, rituales.
Des fêtes, rituels, célébrations.
Que se hacen en mi comunidad, ¿no? Esa materialidad siempre está presente.
Qui se fait dans ma communauté, je veux dire, cette matérialité est toujours présente.
Y en la obra está puesto de esa manera, ¿no? De celebrar un poco cada momento.
Et dans l'œuvre, c'est ça que je veux montrer, c'est de célébrer un peu chaque moment.
Y hay algo también que tiene que ver metafóricamente con el agua.
Et il y a aussi quelque chose qui a à voir métaphoriquement avec l'eau.
Que son cosas como si fueran gotas, ¿no? Como, o lágrimas, ¿no? Que caen.
C'est un peu comme des gouttes ou des larmes qui tombent.
¿No? Y a la vez está la escena de cuando armo el perrito con alas.
En même temps, il y a la scène où quand je fais le petit chien avec des ailes.
¿No? Que eso es lo que le permite al perrito poder levantarse.
Et donc ça représente un peu le fait que ça fait que le chien puisse se surélever.
¿No? Y tiene que ver justamente con ese adjudicarle ese carácter de comme une espèce de comme que tiene poder la capacité de poder élever, non?
Et donc je lui donne un peu cette sorte de capacité de lui donner cette opportunité de se lever au second plan.
Il y a une métaphore qui est la première fois que sale en los papelitos.
Il y a une métaphore que c'est quand c'est la première fois que les paillettes sortent.
Et qui fait léviter le perro.
Qui fait léviter le chien.
Et il y a une seconde partie où effectivement je fais le déplacement de la tela.
Il y a une deuxième partie où je fais le déplacement des tissus.
Et esos papeles como que caen a mí, ¿no?
Et ces paillettes, c'est comme si elle tombait sur moi.
Et c'est une espèce de rituel, non, de croire que puedo también dialoguer con el otro plano, non, que confío en que esa materialidad me puede llevar a, así como el perro me puede también llevar al otro mundo.
Et c'est aussi en quelque sorte une façon de utiliser de la même façon que pour surélever le chien pour moi-même de me connecter avec l'autre plan.
Le choix du chien, c'est volontaire, il y a une signification?
Non, el perro es una figura sumamente importante para nosotros.
Non, le chien, c'est une figure vraiment très importante pour nous.
Es como, digo, es literal lo que dice en la obra, ¿no? De que todos tenemos un perro.
C'est littéralement ce qui est dit dans l'œuvre, c'est qu'on a tous un chien.
Porque es el que tiene la capacidad de cruzar planos, ¿no?
Parce que c'est celui qui a la capacité de jongler entre les deux plans.
Entonces, en todas las cosmogonías, en casi la mayoría de las comunidades indígenas, el perro es como un guardián, ¿no? El que nos puede llevar y traer.
Donc, dans la plupart des communautés indigènes, c'est un peu le chien qui peut nous faire jongler entre les plans.
Después existe otro tipo de ritual que es muy íntimo entre las personas o la familia con el animal.
Il existe aussi un rituel très intime entre le chien et les personnes de la famille.
Pero effectivement, el perro es fundamental para nosotros.
Mais effectivement, le chien, il est fondamental pour nous.
Lorsque vous êtes face à nous sur scène, vous nous partagez votre histoire. Quel est votre objectif avec ce partage?
Bueno, contar mi historia está puesto como una estrategia.
Bon, raconter mon histoire, c'est un peu une stratégie.
Que en realidad no importa tanto mi historia, ¿no? Como tal.
En réalité, c'est pas vraiment mon histoire qui importe comme tel.
Es más bien una excusa para dar cuenta de una práctica sistemática de violencia que existe hacia cuerpos como los nuestros.
C'est plutôt une excuse pour
pour raconter un système de violence systémique qui existe quand on a des corps comme les nôtres.
Eso, entonces, no importa tanto mi vida, sino lo que denuncio en realidad.
Donc c'est pas vraiment important ma vie, mais sinon ce que je dénonce.
Pourquoi vous dites que votre histoire elle est pas importante?
Porque no soy tan importante.
Parce que je suis pas si important.
Y eso no está bien ni mal.
Et ça c'est pas bien ni mal.
Para ser un poco más concreto.
Je veux dire pour être un peu plus concret.
Digo, a nadie le interesa la vida de un artista o una persona indígena.
Personne n'est intéressé par la vie d'un artiste ou d'un indigène.
Como yo que viene del norte de la Argentina, de un pueblo perdido en la montaña.
Comme moi qui viens du nord de l'Argentine, d'un village perdu dans les montagnes.
Creo que lo interesante es la universalidad que tiene mi discurso.
Je crois que ce qui est vraiment important, c'est l'universalité qui a mon discours.
Porque esto no hablo de mí en realidad. En realidad hablo de una comunidad, ¿no? Que es mucho más grande que mi historia.
En vrai, je parle pas de moi-même, mais plutôt de ma communauté qui est bien plus grande que moi.
Votre spectacle s'appelle Waikekuna. J'ai vu que ça voulait dire mes frères et moi. Pourquoi le choix de ce titre?
Bueno, mis primeros dos espectáculos. La primera se llamó Adiós Matepac. Matepac es la etimología de padre en lengua griega.
Bon, dans mes trois spectacles, les deux premières, la première, elle s'appelait Au revoir, Matepac. Matepac, c'est l'étymologie grecque de père.
Y un poco era porque la obra hablaba de cómo hay una estructura teatral.
L'œuvre parlait de comment il y a une structure théâtrale.
Que tiene sus orígenes en el teatro griego.
Qui a ses origines dans le théâtre grec.
Y es un poco la que se ha instalado en todo nuestro territorio.
Y es un poco lo que se ha instalado en todo nuestro territorio.
Entonces, la obra hablaba un poco de despedirme de ese tipo de teatro que no nos pertenece.
Alors, l'œuvre consistait un peu à dire au revoir à ce genre de théâtre qui ne nous appartient pas.
Mi segundo espectáculo se llama Soliloquio.
Mon deuxième spectacle s'appelle Soliloquio.
Que es un nomenclador dentro de la estructura teatral aristotélica.
Qui est une nomenclature à l'intérieur du de la structure théâtrale, c'est une part de la structure théâtrale aristotélica.
Soliloquio significa una persona que reflexiona consigo mismo y esa reflexión la comparte con el mundo.
Soliloquio, ça veut dire quand une personne réfléchit avec soi-même et ensuite la partage avec le monde.
En el teatro griego hay, por lo general, entre escenas aparece un personaje.
Dans le théâtre grec, il y a des scènes où apparaissent les personnages, où apparaissent les personnages.
Que tiene como un monólogo.
Que es un peu une sorte de monologue.
Que es este soliloquio.
Qui est ce soliloque.
Entonces, las dos primeras obras tienen como el nombre o la forma de llamar que responde a una crítica de esa estructura teatral.
Donc les deux premières œuvres, elles ont
un nom qui fait référence à ce qu'il veut critiquer, dénoncer ou rejeter dans ces structures théâtrales.
Y la última decidí volver como a mi propia lengua.
Y por la dernière, j'ai décidé un peu de revenir dans ma propre langue.
Era el último proyecto de la trilogía.
C'était le dernier projet de la trilogie.
Entonces creía que era mucho mejor volver a mi propia raíz.
Et donc je croyais que c'était déjà beaucoup mieux de revenir à mes racines.
Y volver a instalar la lengua quechua dentro de la problemática en este mundo del arte contemporáneo.
Et réinstaller la langue quechua dans l'art contemporain.
Pourquoi avoir choisi l'art contemporain en l'occurrence pour vous exprimer?
No lo sé.
Je sais pas.
Como dije ayer un poco en la charla.
Comme j'ai dit un peu hier pendant l'échange.
Et creo que hay como un si existe la matrix como tal.
Je crois qu'il y a une sorte de, bon si ça existe la matrix comme telle.
Soy un error, ¿no?
Je suis une erreur.
Pero eso ha llevado en que yo no pueda concebir el arte por fuera de mi vida ni yo por fuera del arte.
Mais ce qui s'est passé c'est que je peux plus concevoir l'art en dehors de moi et moi en dehors de l'art.
Todo está atravesado por lo que hago, ¿no?
Tout est traversé par ce que je fais, par ce que je fais.
Digo, hago mis obras, pero a la vez tengo proyectos que trabajo en el norte de la Argentina para ayudar a otros artistas.
Je fais mes œuvres, mais en même temps j'ai des projets que je mène moi-même pour aider d'autres artistes en Argentine.
Tengo otros proyectos que son específicamente para adolescentes y niños en mi comunidad.
Il y a d'autres projets où c'est spécifiquement pour des adolescents ou des enfants de ma communauté.
Entonces todo en mi vida está estructurada en los discursivos que están en la obra.
Donc tout dans ma vie
est régi par ce discours qui est porté dans ces spectacles.
Sí, me hubiera encantado ser un diplomático de la ONU.
Bien sûr, j'aurais aimé être un diplomate de l'ONU.
Pero bueno, no se puede todo en la vida.
Mais bon, on peut pas tout faire dans la vie.
Comment est-ce que vous vous sentez pendant le spectacle?
Y bueno, me pasan muchas cosas.
Bon, il m'arrive beaucoup de choses.
A veces lloro, a veces no lloro.
Des fois je pleure, des fois je pleure pas.
Me angustio, no me angustio, siento alegría.
Des fois je ressens de l'angoisse ou pas, je ressens de la joie.
Y depende de muchos factores de cómo me sienta. En sí es un espectáculo vivo, ¿no?
Et bien sûr, ça dépend de plusieurs facteurs, de comment je me sens. En soi, c'est un spectacle vivant.
Porque no es un espectáculo que donde se crea un personaje, sino que es Tiziano que se sube al escenario y cuenta una historia.
C'est pas un spectacle où on crée un personnage, sino que c'est Tiziano qui monte sur scène et qui raconte une histoire.
Y está permitido que pasen cosas.
Et c'est bien sûr permis que des choses arrivent.
Y a veces no pasa nada.
Et des fois y a rien. Qui se passe.
Y otras veces pasa todo.
D'autres fois, il y a tout qui se passe.
Entonces, eso, me pasan muchas cosas.
Donc voilà, oui, il m'arrive beaucoup de choses sur scène.
Vous avez joué votre spectacle dans 10 pays. Quelles sont les différentes réactions du public?
Bueno, mi espectáculo funciona muy bien. más o menos en todos los países a los que fui. El único lugar donde no ha funcionado es en Argentina.
Bon, mon spectacle fonctionne assez bien, marche assez bien. À peu près dans tous les pays où j'ai été. Le seul endroit où ça n'a pas marché, c'est en Argentine.
Ayer cumplimos 38 funciones.
Hier, c'était la 38e représentation.
Et en Argentine, hicimos 3 funciones.
En Argentine, on a fait 3 représentations.
Y tiene que ver donde, bueno, lo que habla mi espectáculo no es interesante para mi país.
Et ça a à voir avec le fait que, bon, ce que je raconte dans mon spectacle, c'est pas pour mon pays.
À diferencia de lo que sucede en diferentes partes del mundo o en los festivales a los que yo puedo llegar.
À différence de ce qui se passe ailleurs et dans le festival où je peux jouer.
Et donde hay una intención de problematizar estas cuestiones de invisibilización.
Ces festivals qui ressentent le besoin de problématiser justement cette question de l'invisibilisation des peuples.
Y en mi país todavía eso no sucede.
Et donc dans mon pays ça n'arrive pas encore.
En todos los lugares que he ido ha funcionado muy bien.
Voilà, dans tous les endroits où j'ai été ça a très bien marché.
La obra digo, ¿no? De vengo buscando refugio, ¿no? En las instituciones de arte. Puedo vivir tranquilo estando dentro de estas instituciones.
Bon, je le dis dans l'œuvre, je viens à la recherche d'un refuge dans les institutions de l'art. Je peux vivre en paix dans ces institutions-là.
Vous venez d'écouter notre interview de Tiziano Cruz, traduite par Alice et Fessal. Et tout de suite, on va faire un petit tour de table sur ce spectacle de Wakikuna. Et je vais laisser parler Emerald.
Alors, moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé Wakikuna. C'était une découverte culturelle et politique aussi des enjeux que traverse l'Argentine. Et c'était impressionnant, il y a une mélodie qui m'est beaucoup restée tout au long de la semaine, donc c'était vraiment super. Et toi Noah, qu'est-ce que t'en as pensé ?
C'est un spectacle engagé et important, j'ai vraiment été émue. Et ce spectacle, il rend hommage à sa sœur qui est décédée, donc c'est vraiment bouleversant.
Et toi Amy ?
Pareil, j'ai trouvé que c'était très touchant, très émouvant. Et on ressent la peine infinie dont il parle. J'ai relevé quelques phrases, par exemple, le courant n'emporte pas que son corps, mais l'espoir d'une vie meilleure. Mais il finit quand même sur une note d'espoir, il nous dit bonne chance à vous, bonne chance à toi, bonne chance à vous, bonne chance à moi, bonne chance à nous. Et faire l'interview, ça nous a permis d'approfondir encore le spectacle et de mieux comprendre.
Ouais, c'était hyper touchant.
Ouais.
Et c'était beau aussi à voir les couleurs et même les animations. Voir comment est-ce qu'il a grandi et découvrir aussi qu'à la fin, même si sa sœur est décédée, son fils, il est toujours en vie et qu'il vive avec eux, c'était très touchant.
Moi, ce que j'ai kiffé, c'est vraiment quand il se mettait à genoux en coin de scène.
Ouais.
Et qu'il disait, il disait rien, justement, il regardait ce qu'il avait filmé justement dans son village. Pardon.
Et à la fin, on a même eu un banquet, on a mangé, on a bien profité. Ouais. Donc c'était un moment de partage, c'est un moment d'émotion et c'est aussi un moment d'espoir. Donc c'était très très beau.
Ouais, franchement c'était cool.
Tout de suite, la petite pause musicale avec Boys Don't Cry de The Cure.
I'm not
16h34, vous êtes toujours sur Radio Campus et vous venez d'écouter Boys Don't Cry de The Cure. Et c'est une musique qui a fait partie du spectacle Partout le Feu, spectacle dont je vais vous parler tout de suite. Aujourd'hui, je vous parle d'un spectacle qui ne se contente pas de mettre le feu aux planches, mais qui brûle jusqu'à l'os. Son titre, Partout le Feu. Une œuvre qui ne se regarde pas, elle se traverse, ou plutôt elle vous traverse, sur scène, une seule femme. Stéphanie Aflalo. Une voix, un corps, une présence rare, incandescente même. Elle incarne Laetitia, une militante éco-anxieuse, née près de peu après Tchernobyl. Autant dire qu'elle a vu le jour dans une zone déjà contaminée et que depuis, elle rayonne d'une colère nucléaire. Dans un solo haletant, elle déroule un texte en vers libre, sans ponctuation. Autrement dit, un torrent verbal, un fleuve sans digue. Et croyez-moi, quand Aflalo parle, les mots prennent feu et les silences fument encore. Ce n'est pas un spectacle, c'est un embrasement. On y entend la rage sourde d'une génération qui ne veut plus attendre, qui ne peut plus se taire. Un cri poétique et politique contre l'enfouissement, pas seulement des déchets radioactifs, mais aussi des colères, des rêves, des révoltes. La mise en scène de Hubert Colas, sobre mais millimétrée, laisse toute la place au verbe et à la vibration du corps. Ici, pas d'effet de manche, juste des effets de mots. Et ça fait mouche. Un plateau presque nu, mais chargé d'électricité. Aflalo, elle, jongle avec les registres. Tantôt prophétesse, tantôt clown lucide, parfois presque une prêtresse du désastre. Elle s'adresse à nous comme on lance une bouteille à la mer, radioactive. C'est drôle, cru, bouleversant et d'une justesse rare. Mais attention, ce spectacle n'est pas une conférence écolo déguisée. C'est une expérience sensible, une flamme d'art brute, un moment suspendu où la pensée devient brasier et la scène une zone à défendre. Alors, si vous aimez les spectacles qui allument des incendies dans la tête, si vous cherchez un théâtre qui ne fait pas semblant mais qui questionne, qui vibre, qui dérange, Partout le Feu, c'est pour vous. Un mot d'avertissement tout de même, on en ressort changé. Le cœur un peu cramé, l'esprit rallumé, parce qu'ici le feu n'est pas décoratif, il est existentiel et il pourrait bien réveiller en vous, un volcan que vous croyez éteint. Voilà. Et c'était pour Partout le Feu. Et tout de suite, on écoute Emeraude qui va nous parler de Near Misses, un spectacle qu'on a également vu au cours de cette semaine. Effectivement, merci beaucoup pour ton texte merveilleux sur le spectacle Partout le Feu, Elisa. Et les spectacles que nous avons vus juste après nous a laissé assez perplexes. En effet, le public et nous-mêmes n'avons pas compris le message qui nous a été présenté. Je vais essayer de vous expliquer ce qui nous a été dit par la réalisatrice Fotini Stamatelopoulou. Le spectacle comporte beaucoup de références grecques et est une représentation de la chance pour la lutte contre la maladie. La performeuse Despina Sanida Crezia incarne par ses gestes à la fois la résilience dans le chaos ainsi que la liberté. Et effectivement, la danseuse criait beaucoup sur scène. Elle le dit au début, « Je suis morte 10 fois ce mois ». C'est une sorte d'appel à l'aide face au chagrin que peut causer une maladie. Et effectivement, ce spectacle nous a laissé un petit peu perplexes. On n'avait pas trop compris. Mais c'était assez impressionnant. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Elisa ? Honnêtement, j'ai trouvé ça assez... Déjà, c'était très brouillon. Beaucoup de cris, beaucoup de rage, de souffrance, je suppose. Notamment, une souffrance qui a sans doute été rétablie en quelque sorte et soutenue par des sortes de petites plaquettes en métal qu'on a retrouvées à de nombreuses reprises au cours du spectacle, parce que c'est des plaquettes grecques qui représentent...
Porte chance pour la maladie.
Donc en soi, c'était intéressant, ouais.
Et toi, Noah, qu'est-ce que t'en as pensé ?
C'est un spectacle intense et puissant, et la musique, ça a ajouté beaucoup d'énergie. Ça parle vraiment de résilience et de maladie. Et l'armure métallique, je pense, faisait vraiment référence à une protection face à une maladie qui la ronge. Donc c'est vrai que c'était marquant.
Très bien.
Ok, bah c'était notre tour de table sur le spectacle Near Misses. Tout de suite, je vais vous présenter The Cloud, qui est également un spectacle qui est vraiment à part d'Arkady Zaïd, car sur scène, il mélange son histoire personnelle, il a grandi près de Tchernobyl et fusionne ses souvenirs radioactifs avec notre monde plein de clouds numériques et d'intelligence artificielle. Résultat, The Cloud, un spectacle mi-danse, mi-docu, mi-waouh, c'est quoi ce truc ? Enfin voilà, je vous laisse avec Emeraude qui vous en dira plus au cours de son billet d'humeur.
Vous savez, les festivaliers, ce n'est pas la première fois que je me rends compte de la méchanceté qu'un homme peut avoir à l'égard d'un autre. Et ce spectacle m'a beaucoup touchée pour plusieurs raisons. La première, l'événement Tchernobyl, qui est une catastrophe jusqu'à aujourd'hui qui nous affecte aussi bien physiquement que mentalement. En effet, les déchets nucléaires n'ont pas disparu, non, ils ne peuvent pas disparaître avant 15 millions d'années. Donc ce chiffre lui-même est frustrant, c'est comme si on nous avait sacrifiés sans nous demander avant. Pour deuxième raison, l'envoi d'hommes qui, entre guillemets, au nom de la patrie, on fonce vers la porte de la mort. Car oui, il fallait que quelqu'un se charge de retirer les déchets nucléaires de la centrale, mais les radiations qui émanent de ces déchets étaient tout aussi dangereuses. Donc l'idée de génie qu'ils ont eue, c'est d'envoyer des groupes de 3 par 3, en créant des alternances de 20 minutes pour être moins exposés. Résultat de génie, toutes les personnes sont mortes et ont dû être enterrés dans des cercueils qui empêchent les radiations d'atteindre les autres. Et vive l'URSS et vive la santé, leur disaient les responsables politiques. Donc je déteste ça, ça m'a mise très en colère. Et dernière raison, les innocents et les plus faibles perdent toujours dans ce scénario, et ça c'était le plus triste. On a eu le temps de broyer du noir, puis on a enchaîné à Gare Saint-Sauveur avec une autre performance de danse par le collectif Maraboutage où on a retrouvé la DJ Scorpion Queen sur scène avec des ambiances toujours aussi géniales. On vous laisse, chers festivaliers, avec Chata démonteuse de DJ Queen.
C'est le son pour se monter en l'air. On fait ça propre, ici y'a pas de galère. Tchat, 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 mon vieux bateau, ça claque. Pour te liquide de refroidissement, ou t'étines pas content.
Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas coquet. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas coquet.
Marabouté par Cardozo, c'est le son pour faire des marmots. S'extatique, baby, oui, casse-moi le dos. On parle coquet, on parle français. Fais pas le choc, c'est l'heure de coquet. À force de compter des menteurs, oui, je deviens une menteuse. Jamais très silencieuse, j'aime pas si t'es pas peureux. Why you feel me? Prends le pli. Si j'ai pas fini, ou si t'as pas fini.
Coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet. Pas coquet, coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas content. Pas coquet, pas coquet.
On est venu pour faire la guerre. Mets-moi des claques, tu sais que ça tombe par terre. Pour mon doc là, donne tout pour le climax. Si t'as bien travaillé, je te fais peut-être un poulet.
Coquet, coquet, coquet.
Coquet pas content, pas coquet pas content, pas coquet pas content, pas coquet pas coquet, pas coquet pas content, pas coquet pas content, pas coquet pas content, pas coquet pas coquet.
Toi et moi ce soir c'est coquet, toi et moi ce soir c'est coquet.
Vous venez donc d'entendre Scorpio King. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le DJ set et c'est pas mon style de musique préféré, mais je pense qu'il y en avait pour tous les goûts. Et ma partie préférée, c'était vraiment l'EP de Scorpion. Elle est très douée, c'était génial. Nous sommes effectivement aussi allés voir la représentation de Frontières sans front, essai 1 de Mackenzie Bergil, l'artiste franco-haïtien, accompagné de la danseuse Cassandre Munoz. Spectacle assez impressionnant dans la gestuelle et avec un message fort dans la performance poétique et artistique. Tout de suite, l'interview de Monsieur Bergil.
Moi, je m'appelle Mackenzie Bergil, je suis franco-haïtien, artiste chorégraphique, pianiste poète basé à Lorient.
Est-ce que vous pouvez présenter aussi votre parcours ?
Alors moi, j'ai baigné dans la culture haïtienne par mes parents. Donc, j'ai commencé la danse par les danses traditionnelles haïtiennes, la musique aussi. Puis ensuite, j'ai été aussi initié aux cultures un peu plus marginalisées comme la culture hip-hop et toutes les cultures périphériques. Et ensuite, j'ai continué mon apprentissage par l'étude d'autres formes de danse comme le jazz, les claquettes, le ballet. Et jusqu'à aujourd'hui, en fait, je suis dans une espèce de quête de savoir et afin de pouvoir être plus émancipé dans mon geste artistique.
Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom Frontières sans front ?
Je me questionne de plus en plus justement sur les notions de frontières, qu'elles soient visibles ou invisibles, parce que souvent ce sont des espèces de constructions mentales qui nous a été imposées depuis qu'on est jeune. Puis il y a aussi une société qui pose des limites, ne nous permettant pas toujours de voir au-delà. Et donc je me suis beaucoup intéressé au sujet des frontières dans la dynamique géographique, déjà de ce qu'elles renvoient géographiquement, mais aussi, comme je le disais, de construction mentale, coloniale, narrative, et finalement comment re-questionner la notion de frontière pour être dans une démarche de renaissance.
Est-ce que vous pouvez nous dire qui est la femme dans le cadre que vous avez apporté sur scène ?
Alors en fait, c'est deux femmes qui, justement, sont des portraits en fait de femmes auxquelles nous ne connaissons pas directement le nom parce que c'est des photographies en fait qui ont été laissées à certaines personnes, donc des portraits assez finalement inconnus, mais finalement qui retracent et qui traduisent en fait l'histoire, par exemple des peuples autochtones en Amérique latine. Donc c'était, il y a eu une époque en fait, il y a eu un tas de portraits qui a été fait avec ces femmes-là dont on ignore le nom. Et c'est quelque chose aussi qui m'interroge malgré le fait que je n'ai pas d'informations sur le nom. Mais qu'est-ce que cette image me renvoie, qu'est-ce qu'elle raconte, sachant que moi je travaille avec une artiste Cassandre que vous avez vue, qui est franco-colombienne, et du coup il y a tout de suite un dialogue qui se crée dans ce portrait, ce que ça raconte.
Qu'est-ce qui a inspiré le poème Santa Maria ?
Et ben en fait, Santa Maria, au-delà de la figure religieuse, c'est en fait le nom du premier bateau de Christophe Colomb. C'est ce premier bateau finalement avec lequel il a fait la première traversée vers la découverte de l'Amérique, avec des guillemets. Et finalement, ce bateau qui s'appelait Santa Maria était le germe en fait du basculement du monde en fait, d'un monde plutôt traditionnaliste oriental à un monde moderne qui aspire juste à plus une espèce de quête de pouvoir et de capital. Et du coup le nom de son bateau s'appelait Santa Maria, et en même temps ça renvoie aussi à la Sainte Marie, la figure du coup religieuse. Il y a une espèce de polysémie en fait dans ce poème. Bon, en même temps, je m'adresse à la figure de religieuse et en même temps à ce bateau qui a justement fait basculer le monde vers la colonisation.
Est-ce que vous utilisez le geste comme un moyen d'expression et pourquoi c'est justement un très bon moyen d'expression, si c'est un mot ?
Moi, le geste, je le vois comme un moyen d'expression, je le vois surtout comme un, en tout cas dans la manière dont je le pratique, comme un manifeste. C'est l'endroit finalement où je peux exprimer, évacuer des souvenirs, des histoires qui ont longtemps été enfouies, refoulées. Donc c'est aussi un canal en fait, un vecteur de d'histoire qui traverse en fait le geste et le corps.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer le choix de la musique ?
Eh ben en fait la version de Santa Maria, enfin de Ave Maria que j'ai partagée, elle est chantée par une artiste afro-américaine qui s'appelle Jessie Norman. Une chanteuse d'opéra afro-américaine qui justement c'est vraiment une prière à Marie. Donc c'est la chanson qui s'adresse à la figure religieuse de Marie. Et donc pour moi, c'était important aussi, durant ce manifeste, cette performance, d'amener un ton religieux malgré le fait que finalement, de manière sous-jacente, l'histoire est beaucoup plus cruelle et criminelle. Donc il y avait une volonté d'encadrer du coup cette performance par une dynamique liturgique qui renvoie à la figure de Marie.
Vous venez d'écouter Mackenzie Bergil, il est 16h49 et là maintenant on va passer à notre dernière pause musicale avec Coup de marteau de Tam Sir.
La Côte d'Ivoire, inspirante d'hospitalité, reçoit l'Afrique. Jour de fête.
C'est quoi?
Et vous savez?
Hommage à toi, président Douxaga.
Venez, venez danser.
Tu fais comme
la Côte d'Ivoire, le soir, l'Afrique, ça va chauffer.
C'était Coup de marteau de Tam Sir et tout de suite on va vous faire un petit débrief de nos activités du week-end parce que oui on a eu un week-end assez chargé
oui, oui.
Avec l'attitude contemporaine on a pu faire deux initiations, une coupée décalée avec l'académie Waka Waka Danse et en deuxième initiation, on a pu faire du roller disco, donc le roller en quad. Et franchement, c'était sympa. On a eu de la chance, il faisait beau et tout. On a appris à danser. Et toi, Emeraude,
c'était génial. Moi, j'aime déjà beaucoup la danse. Et là, on nous a initié à des cultures vraiment totalement différentes. Et c'était super. Le roller, c'était la première fois que j'en faisais. Et franchement... Ça va, je m'en suis bien sortie.
T'en es très très bien sortie.
Grâce à mes amis. Donc vraiment, essayez le roller, c'est vraiment super. Et toi Noah, qu'est-ce que t'en as pensé?
J'ai passé aussi un super week-end. J'ai beaucoup aimé le cours de danse. Il y avait beaucoup d'ambiance et beaucoup d'énergie. Pour la roller disco, j'ai essayé d'en faire, mais j'ai eu beaucoup de difficultés pour avancer, donc j'ai arrêté. Mais j'étais à fond et j'ai encouragé tout le monde.
Et toi Amy, qu'est-ce que t'en as pensé des deux?
Alors je confirme, Noah, tu étais notre supportrice numéro 1. Moi j'ai adoré l'énergie de la danse, c'était génial. ça m'a donné envie de m'inscrire à la rentrée pour des cours. Et oui, et le roller, très très sympa aussi. La petite initiation.
Ok.
Les dernières représentations de la semaine ont été en compagnie de Stéphanie Aflalo, l'interprète du spectacle Partout le feu, en compagnie de Jérôme Chaudière et Grégoire Chaleur, pas Chaleur, C-H-A-L-E-U-R, mais Chaleur, C-S-C-H-A-2-L-E-R, qui cette fois nous invitait à nous plonger au travers d'un récit philosophique au sujet de la mort. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les filles ?
Ah, moi, j'ai explosé de rire. Non, mais premier degré...
C'était très drôle, oui.
Ah, c'était hilarant, mais c'est... Dans cette mise en scène, Stéphanie Aflalo, elle nous a fait... Mais elle a reproduit mon humour, donc comment ne pas rire face à ça ?
C'était hilarant. Et toi, Noah, qu'est-ce que t'en as pensé ?
Ben, j'ai trouvé ça très drôle, et c'était drôle et aussi sérieux, parce que ça, on parlait quand même de la mort, donc c'est un sujet important. Et il jouait beaucoup sur les figures de style, et je trouve que ça rapportait un côté encore plus drôle, en fait. Mmh. Donc j'ai beaucoup aimé.
Et toi, Amy ?
Ben, c'était le deuxième spectacle en une semaine qu'on a vu de Stéphanie Aflalo par la comédienne, auteure et metteur en scène et musicienne. Et on n'en a jamais assez. Cette fois, c'est elle qui avait écrit la pièce, et... Très objectivement, bien sûr. Je l'ai trouvé très, très drôle. C'est un humour qui se joue dans la diction, dans le rythme, qui est donné par les comédiens. Et c'est un trio vraiment très, très complémentaire. Ce sont les seuls à avoir une épaisse couche de crème solaire, alors qu'ils étaient les seuls à être au sommet des arbres.
Exactement.
Et ils nous présentent une succession de métaphores, de comparaisons faussement innocentes à propos de la mort. Et ça peut sonner comme une antithèse, mais c'était à pleurer de rire.
Vraiment. Et le festival touche bientôt à sa fin, et notre émission aussi. Avant de conclure, voici le menu de la semaine des spectacles qui restent à voir. Tout d'abord, ce soir à Maison Folie Oisem, à 20h, on retrouve Pamira de Coulon pour Fire of Emotion Niagara 3000.
Jeudi 26 juin, donc demain, on retrouvera à nouveau La Fille et le Dragon, qu'on a pu voir en début du mois, pour une lecture dessinée avec Cobra Academy et Nicole Lapierre. Et on aura également un spectacle Johanna Ficone, La Ribaud, à Lille Grand Sud.
Et on termine le festival Latitude Contemporaine avec Haribo Kimchi, présenté par Joako, à Maison Folie Oisem, avec un petit buffet à la fin. Et je termine cette émission en remerciant Maria Caramella Mini, directrice du festival, Faisal Brada, Alice Durand, qui ont été les traducteurs pour Tidiano Cruz. Je remercie aussi Astrid Herberon, communication Latitude Production, qui nous a aidés à récupérer les tickets, toutes les démarches administratives, et Louise Marion aussi, ainsi que Johan Posner qui faisait la coordination et les partenariats. Et je vous remercie, chers auditeurs et auditrices, de nous avoir suivis tout au long du festival. Vous nous avez soutenus, vous avez écouté nos anecdotes, ainsi que les pensées philosophiques de Noah à la plume d'or et à l'expression aiguisée qu'on peut applaudir. Vous avez aussi assisté à l'incroyable génie, la régie / DJ Amy Doigt de Fée, qui a su manier les émissions et leur montage fastidieux tout le mois comme une chef. Et bien sûr, notre présentation à Elisa et moi, qui je l'espère vous a permis de suivre ce superbe festival. C'était la fine équipe du festival Latitude Contemporaine sur Radio Campus sur la fréquence 106.6. Pour notre part, on rend l'antenne à notre responsable de stage et conseiller René Lavergne, que l'on remercie car il a eu l'amabilité de nous laisser une heure dans son émission tout au long du mois. Donc merci beaucoup René Lavergne. Merci à tous et merci les filles, on peut être fiers de nous. Je vous souhaite une bonne après-midi, c'était un plaisir. Au revoir à toutes et à tous. Et on vous laisse avec Scorpion Queen et son DJ set. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.
Viens prendre ta claque, la couronne est sur ma tête.
Sur ma tête.
Te méprends pas, c'est pas que pour faire la fête. Si il résonne pas celui-là, je m'en fous demain, j'arrête.
Ah oui?
Laisse pas percher, tu vas ramasser les miettes. Viens prendre ta claque, la couronne est sur ma tête. Te méprends pas, c'est pas que pour faire la fête. Si il résonne pas celui-là, je m'en fous demain, j'arrête.
Ah oui?
Laisse pas percher, tu vas ramasser les miettes.
Ah oui, mais qui t'a dit qu'on était là pour.